quand il n'y a plus de la volonté d'efficacité. Alors, il faut comprendre que l'efficacité est bonne. Comprenez bien. L'efficacité est bonne, comme le raisonnement est bon. Mais quand le raisonnement devient tel qu'il rejette la contemplation, la méditation est bonne. Mais quand la méditation devient telle qu'elle rejette la contemplation, alors à ce moment-là, le raisonnement tue l'intelligence. Il provient de l'intelligence, mais il tue l'intelligence. C'est le fils qui tue le père. Le meurtre du père. Le meurtre du père dont on parle tellement aujourd'hui. Mais radicalement, c'est le raisonnement qui tue l'intelligence, qui tue la capacité de contempler. Il y a là un meurtre intérieur qui se fait dans une espèce de rivalité terrible et qui fait que le raisonnement veut dominer. Alors, du côté volontaire, c'est la même chose. C'est la volonté d'efficacité qui provient de l'amour et qui passe devant l'amour et qui écrase l'amour. Mais l'efficacité en elle-même est bonne. Alors, comprenons un peu cette volonté d'efficacité. Après vous avoir montré, et c'est très vrai, c'est quand même là une réflexion très très importante que nous devons faire entre intelligence, raisonnement, le cœur spirituel, la volonté d'aimer, cet amour volontaire dans ce qu'il a de plus profond qui nous permet d'être attirés par le bien, par la personne qui nous aime, et puis l'efficacité. Cette volonté d'efficacité, c'est donc le conditionnement de notre volonté. Alors, c'est là où je voudrais que vous compreniez bien, parce que c'est quand même très important de saisir ça. C'est le conditionnement. Autrement dit, il n'y a pas d'efficacité en Dieu. Comprenez bien. Parce que c'est le conditionnement, c'est qu'il n'y a pas de raisonnement en Dieu. Je ne veux pas dire Dieu raisonne. Dieu raisonne, non, Dieu contemple. C'est vrai, Dieu contemple. Mais le raisonnement ne fait pas aboutir à grand-chose en Dieu. C'est pour ça que la logique n'est pas en Dieu et que la logique ne peut rien dire de Dieu. Dites-vous bien ça, la logique ne peut rien dire de Dieu. Donc la logique ne vous sert en rien à la contemplation. Elle vous sert à communiquer certaines choses, mais elle ne vous sert en rien à la contemplation. La logique ne pénètre pas dans la contemplation. Mais elle sert notre conditionnement humain. Alors, nous n'avons pas le droit de ne pas respecter ce conditionnement humain. Alors ce conditionnement humain, il existe. Pas le droit de télescoper. Mais comprenons bien que la contemplation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. L'intelligence, le cœur spirituel dans ce qu'il y a de plus profond, qui nous permet d'aimer. Voilà, on est dans le point de vue de la contemplation. Donc, l'efficacité comme telle, c'est le conditionnement de la volonté. L'efficacité, c'est la volonté qui veut faire que l'union affective soit une union réelle. Ma volonté me liant au bien dans l'amour. Mais ce bien, il est une fin. Il me transcende, il me dépasse. Il est quelque chose que je n'ai pas, dont je n'ai pas la possession. Il est quelque chose qui est extérieur à moi. Ce bien spirituel est quelque chose qui me transcende. C'est l'autre. Et il n'est pas au plus intime de moi-même. Il y a donc un hiatus, un abîme, si vous voulez, entre l'union affective de l'amour et l'union réelle. L'amour est premièrement d'ordre intentionnel, au plan philosophique. On ne parle pas de l'agapé. Il s'agit de l'agapé, on verra après. Mais prenons d'abord au point de vue philosophique. L'amour est d'ordre intentionnel. Vous savez bien ce que c'est que l'intentionnel. Vous devez commencer à vous y habituer. L'intentionnel n'est pas le réel. Et là, nous le voyons bien. Dans l'amour qui nous unit affectivement à celui qu'on aime, cette union est intentionnelle. C'est-à-dire qu'on la porte au-dedans de nous-mêmes, mais elle n'est pas encore l'union réelle. Il y a un hiatus entre cet intentionnel et ce réel. Qu'est-ce qui va combler ce hiatus? C'est ma volonté d'efficacité. Ma volonté d'efficacité est pour cette union réelle. et tout dans ma vie, parce que le travail, c'est la volonté d'efficacité, c'est bien évident. Voilà, dès qu'on me dit que j'aime énormément le travail que je fais, je l'aime tellement que je reste à le contempler. Je l'aime tellement que je le contemple. À ce moment-là, le travail ne se fait pas, vous comprenez. Ben, c'est évident que le travail, on l'aime en le faisant. L'amour du travail, c'est l'amour de l'efficacité. C'est extraordinaire. Non, il peut y avoir un amour d'efficacité. C'est du reste la seule manière de bien faire quelque chose. C'est d'aimer ce qu'on fait. Alors, il y a un amour d'efficacité. Mais cet amour d'efficacité, il doit être tout entier ordonné à l'amour réel, l'amour personnel. Parce que dans l'amour d'efficacité, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez ce que vous faites. Vous aimez l'œuvre. Ah oui, l'œuvre qui apparaît là. L'ergone. L'opus dei. L'œuvre. On aime l'œuvre. Et très facilement, on arrive à identifier l'œuvre et Dieu. Alors ça, c'est comme quand on identifie la Torah et Dieu. C'est du même ordre. Alors ça, c'est à ce moment-là. Quand on identifie le sabbat et Dieu. C'est terrible. Parce qu'alors, Dieu n'est plus Dieu. Et le sabbat et la Torah et l'œuvre ne sont plus relatives à Dieu. Alors qu'ils devraient être relatives à Dieu. C'est vrai que la volonté d'efficacité se trouve parfaitement réalisée dans une œuvre qu'on fait. Mais l'œuvre qu'on fait, on la fait par amour pour Dieu, pour glorifier Dieu. L'opus Dei, c'est pour glorifier Dieu. Et c'est orienté vers le silence de la contemplation. Et ça doit être orienté vers le silence de la contemplation. Si vous vous arrêtez à l'opus, l'œuvre, l'ergone, si vous arrêtez à l'œuvre, à ce moment-là, votre volonté d'efficacité peut très bien effacer la contemplation et faire mourir la contemplation. C'est très subtil, vous avez ces choses-là. Et c'est constant, ces choses-là. Faut bien, nous les portons en nous. Nous portons en nous la volonté d'amour et la volonté d'efficacité. Et si nous ne sommes pas très attentifs, la volonté d'efficacité dans le climat dans lequel on est va l'emporter avec d'excellents motifs. Tout ce que je fais pour la plus grande gloire de Dieu. Même ma propre gloire, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Après tout, Dieu aime bien les brebis grasses. Alors, soyons des brebis grasses pour glorifier Dieu. Et donc, soyons des brebis rayonnantes, glorieuses, que tout le monde... Et alors, à ce moment-là, l'apologétique l'emporte sur la théologie. Et alors, on fait sa propre apologétique. Qu'il y ait au moins des théologiens intelligents dans le monde. Soyons ce théologien intelligent. Alors, on se glorifie. Et on se dit, mais je glorifie Dieu aussi derrière. Mais au bout d'un certain temps, je me glorifie moi-même. Volonté d'efficacité. La volonté d'efficacité, qu'est-ce qui la finalise? C'est la gloire. C'est cette fameuse parole dans Saint Jean qui est si mystérieuse. Comment voulez-vous qu'il puisse croire? Je la cite de mémoire, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est presque comme ça. C'est le sens. Comment voulez-vous qu'ils puissent croire, eux qui cherchent les uns des autres leur propre gloire? Moi, ça m'a toujours beaucoup frappé. Comme si notre Seigneur détectait que le grand obstacle à la foi, c'est la recherche de sa propre gloire. Volonté d'efficacité. Le travail conduit à l'œuvre et l'œuvre me glorifie. Et alors à ce moment-là, cette glorification du travail et de l'œuvre arrête la capacité contemplative. Arrête la possibilité d'être dans cette attitude de réceptivité. Alors, comprenons, je voudrais que vous compreniez bien, à la fois, parce qu'il faut les deux, à la fois, ne pas mépriser la volonté d'efficacité. Le mépris de la volonté d'efficacité, ça peut exister chez les spirituels. Ça peut exister. Je vois le danger de l'efficacité, alors je méprise souverainement. Alors, à ce moment-là, je ne veux plus me salir les mains et je veux contempler toute la journée. Oui, donc il peut y avoir, ça peut exister un mépris vis-à-vis d'efficacité. Le mépris vis-à-vis d'efficacité, c'est très mauvais, parce que c'est au fond un orgueil très très subtil, très très subtil. On se considère comme Dieu. On n'accepte plus ce conditionnement humain. Accepter notre conditionnement humain, accepter que nous avons un corps, accepter que nous sommes limités, accepter que nous devons travailler, ce conditionnement humain, l'accepter tel qu'il est, quoi. Bien, accepter ça, c'est au fond l'humilité. Alors à ce moment-là, nous acceptons cette volonté d'efficacité. Nous acceptons cette volonté d'efficacité dans la mesure même où cette volonté d'efficacité, c'est la béquille qui nous permet de voler. Parce que c'est très bête. Il faut une béquille pour voler, que voulez-vous. Si vous ne l'avez plus, vous ne pouvez plus. Cette volonté d'efficacité, c'est le conditionnement humain qui est là, qui est présent, que je touche, je sais que je suis, que Dieu m'a mis dans cette condition. C'est très curieux. Ça fait partie du chef-d'œuvre de Dieu d'avoir réalisé des choses comme ça. Dieu me veut efficace dans mon travail. Comme Dieu veut ma méditation, comme Dieu veut mon raisonnement. Dieu le veut. Mais Dieu veut me faire comprendre que cette efficacité n'est jamais une fin. Que cette efficacité est toujours relative à quelque chose de plus profond. Et c'est très vrai que cette efficacité née de l'amour, elle doit retourner à l'amour. Alors à ce moment-là, une efficacité qui naît de l'amour, c'est par amour pour Dieu que je travaille. C'est par amour pour Dieu que je veux être efficace. C'est par amour pour Dieu que je veux être efficace. Alors à ce moment-là, cette efficacité me sanctifie. Alors vous voyez que là nous touchons le problème foncier tout à l'heure, hein, l'abandon et l'efficacité. Ça c'est foncier, c'est tout à fait foncier de voir la relation entre les deux. L'évangile ne nous demande pas en premier lieu d'être efficace. Non, l'évangile nous demande en premier lieu l'abandon. Ça c'est sûr, c'est être abandonné à Dieu, radicalement comme un tout petit enfant entre les mains de son père. Une manoustoise, hein. Vous n'allez pas transformer une manoustoise en l'efficacité, hein, le champ des travailleurs. Alors vous auriez les complices des travailleurs. À ce moment-là, ça changerait. Ce ne serait plus dans les mains de Dieu. Alors vous auriez au contraire le fait de glorifier. Dieu, je te glorifie d'avoir permis qu'aujourd'hui ce travail ait été efficace. Je te venais, et ainsi de suite. Alors vous pourriez à ce moment-là glorifier votre efficacité. Non, c'est l'abandon qui est premier. C'est l'abandon qui enveloppe tout. C'est la volonté d'amour. C'est le cœur spirituel. Mais ce cœur spirituel me demande l'efficacité. On juge un arbre par ses fruits. Ah, il y a cette parole-là aussi dans l'Écriture. Je vous affirme, quand on est en dialogue avec des psychanalystes, c'est toujours cette parole qui revient. Il y a cette parole dans l'Écriture. L'autre, il la laisse tomber, mais celle-là, on juge un arbre par ses fruits. Et c'est vrai qu'il faut avoir des initiatives. Marie a eu des initiatives devant les signes que Dieu lui donnait. Le mystère de la visitation. L'initiative dans la charité fraternelle, l'initiative que Dieu nous demande dans la prudence, dans le choix des moyens, dans l'efficacité. S'il n'y avait pas ça, c'est impossible. L'abandon ne supprime pas ça. Un abandon qui supprimerait l'efficacité nous ferait tomber dans l'illuminisme. L'illuminisme, c'est ça. C'est un abandon qui supprime l'efficacité. Oui, qui n'accepte pas le conditionnement de notre maison, le conditionnement de notre nature humaine. Alors on tomberait dans l'illuminisme, on dirait je n'ai qu'à m'abandonner. Il y a des moments d'abandon, des longs moments d'abandon, où Dieu nous demande vraiment à ce moment-là d'être totalement abandonné, puis laisser passer tout. Et puis, à l'intérieur de cet abandon, Dieu peut nous demander à certains moments. Parce qu'au fond, tant que nous sommes sur la terre, le conditionnement de notre être humain, le travail. Je prends travail dans le très très grand sens, vous voyez, le conditionnement, la volonté d'efficacité. Cette volonté d'efficacité se réalise toujours dans la lutte. Ah, ça c'est très important aussi.
Ça c'est très important, de bien souligner ça. Parce que ça fait comprendre pas mal de choses.
Vous voyez, elle se réalise dans la lutte. La lutte n'est pas l'efficacité. À la différence du marxisme, hein, où la lutte est l'efficacité. C'est très curieux. La lutte, et c'est le milieu dans lequel se retrouve cette efficacité. C'est très vrai que je ne peux pas travailler sans lutte. Toujours. La lutte existe toujours au niveau de mon conditionnement humain. Il y a toujours une lutte au niveau de l'efficacité. C'est pour ça que l'efficacité me fortifie. Et ça exerce ma force, ça exige ma force. Et c'est dans cette efficacité que je suis témoin.
que je suis quelquefois martyr. C'est pas au niveau de l'abandon, plaignez. C'est ça au niveau de l'amour. Tandis que dans l'efficacité, je suis dans la lutte. Et alors, parce que je suis dans la lutte, c'est constamment des obstacles qui se trouvent devant moi. Cette lutte me fortifie et exige tout le temps de me rappeler que cette efficacité, je l'accepte, que ce travail, je l'accepte par amour. Mais la lutte est présente. Il ne peut pas y avoir d'efficacité, de volonté d'efficacité sans la lutte. Parce que c'est justement dans le milieu dans lequel je suis. Et le milieu dans lequel je suis subit des influences diverses et multiples. Donc voilà les deux grands aspects, je crois, que nous pouvons faire ressortir de toute l'analyse que nous avons dit hier. Oui. Toute l'analyse que nous avons dit hier, c'est pour essayer de comprendre ces deux grands aspects de la volonté. Volonté, capacité d'amour, volonté d'efficacité. Analogue à l'intelligence et à la raison. Analogue à la finalité et au conditionnement. Ça, il faut le voir très nettement. Mais dans la profondeur, hein, dans la profondeur de l'étude philosophique de ce que c'est que la volonté. Bon. Alors, je reviens un instant, parce que c'est quand même très important toujours de saisir ces choses-là, de voir comment, à partir de là, naît la liberté. Nous l'avions déjà vu. Mais j'y reviens, parce que je crois que c'est quand même très important. Ça fait partie, hein, de ma volonté. Ma volonté est une volonté libre. Elle se réalise dans la lutte, et c'est une volonté libre. Le libre arbitre, cette fameuse chose, libre arbitre, cette volonté libre. La liberté, c'est le fruit de l'intelligence et de la volonté. La liberté, elle est dans les deux. C'est le fruit commun. C'est pour ça qu'on l'aime tellement, vous savez. C'est le fruit commun de mon intelligence et de ma volonté. Si je n'étais pas intelligent, il n'y aurait pas de liberté. Si je n'avais pas de volonté, il n'y aurait pas de liberté. Il y a des gens qui deviennent abouliques. Hein? On sait très bien. Bon, des gens qui deviennent abouliques. Qu'est-ce que ça veut dire de devenir abouliques? Ça veut dire qu'il y a un petit virus particulier, n'est-ce pas, qui fait que ma volonté d'efficacité disparaît complètement. Complètement abolique. Face à des stoïciens, ils deviennent aboliques. Ils ont eu un père stoïcien. Alors en face du père stoïcien, que voulez-vous, il n'avait qu'une seule issue, c'est devenir un âne batté, qu'on pouvait taper, il ne marchait pas. Je me souviens, c'était la réflexion d'un de mes cousins, qu'on a toujours répété ça dans ma jeunesse. Et il est mort, c'est mon cousin. Il avait toujours. T'es paresseux, vous avez parlé, t'es paresseux, mais alors il était toujours dernier. Alors on disait quand même, hein, quand j'étais jeune, dernier de classe, toujours. Alors il avait trouvé cet argument. Voulez-vous, moi ça ne fait rien d'être dernier. Tandis que les autres, ça leur fait de la peine. Alors on ne pouvait plus rien, comme voulez-vous, comme argument. Ça m'est égal, moi, de dernier. Oui, alors ça, on voit très bien l'aboulisme qui naît à partir de là. On prend cette position extrême de celui qui, en face d'une volonté d'efficacité, on devient aboulique. C'est du reste, je crois, de très grand danger. En face d'un monde d'efficacité, on devient aboulique. En se disant, après tout, c'est pour échapper à ce monde. Ce monde d'efficacité, il m'assomme. Ça n'a aucun sens. Alors on se met en dehors. Alors on devient aboulique. L'aboulisme, hein, c'est la suppression de la volonté d'efficacité. C'est la suppression. Alors vous voyez, quand l'aboulisme me conduit à un cœur spirituel, ça peut arriver, ça. C'est quelquefois ce qui arrive. Hein. Dieu peut se servir de ça. C'était très curieux, du reste. Dieu peut se servir de ça pour refaire naître un amour spirituel. Alors à ce moment-là, la source reprend. Et je reprendrai une efficacité vraie. Si la source spirituelle est là, c'est vrai, c'est la seule manière de corriger la boulimie. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est aboulique, qui ne veut plus, vous avez quelqu'un qui ne veut plus, des exemples multiples d'aboulisme, hein, des gens qui ne veulent pas se lever le matin, incapacité de se lever le matin. Ils se leveront quand ils seront plus fatigués. Et là, évidemment, moi je suis fatigué, donc je continue de dormir. donné. Bon, quelquefois, ça peut être bien, ça peut être bien, mais quelquefois, ça peut être aussi très dangereux, parce que, alors à ce moment-là, vous vous levez n'importe où. Vous êtes alcoolique. Ah, c'est trop difficile, je ne le fais plus. J'ai raté tout le temps, je ne le fais plus. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je vois ça combien de fois aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse. Ah, c'est la prière. Attention, attention, plus rien qui m'intéresse. Dieu peut permettre ça momentanément pour faire comprendre autre chose. Ça, c'est très vrai. Mais c'est dangereux, hein, parce que ce n'est pas accepter le conditionnement dans lequel on est. Le conditionnement humain. Les psychologues reconnaissent, hein, que l'équilibre premier, c'est le travail. Alors, quand vous ne travaillez plus, vous vous mettez chômeur. C'est un immense avantage que vous pouvez rester contemplatif, chômeur. Vous êtes aboulique par rapport au travail. Vous n'en voulez plus. Vous mettez chômeur et vous dites, je contemple le reste de la journée. Après tout, la société d'aujourd'hui peut bien me payer ça, puisqu'au fond, je la finalise en étant contemplatif. Et là, je me mets chômeur. Vous voyez, c'est pour vous faire toucher du doigt ce que c'est que cette maladie de la boulimie, qui est au fond l'opposé, l'antithèse violente de cette volonté d'efficacité, de cette économie de consommation. L'économie de consommation exprime parfaitement, symboliquement, une volonté d'efficacité. Enfin, symboliquement, c'est le symbolisme le plus direct de cette volonté d'efficacité. On ne voit plus que l'efficacité pour que ça produise. L'aboulisme, c'est la suppression en moi de cette volonté d'efficacité. C'est directement l'opposition qui supprime la liberté. Donc la liberté n'existe que lorsqu'il y a la coopération entre l'intelligence et la volonté. Et plus cette coopération est intérieure, plus la liberté est grande. Alors c'est là où je voudrais que vous compreniez les degrés de liberté. Et que la vraie liberté devient de plus en plus intérieure. Et qu'elle doit être de plus en plus intérieure. Alors les degrés de liberté, c'est facile à comprendre une fois qu'on a le petit tableau qu'on avait donné hier, hein, à tous les étages. La liberté la plus visible, c'est la liberté d'exécution. Enfin, c'est la liberté la plus visible, la liberté d'exécution. Je suis libre d'exécuter cela, je peux le faire. Alors là intervient toujours, hein, dès qu'il y a liberté, intervient l'obéissance. C'est très très curieux. Toujours intervient l'obéissance. Parce que je peux faire un acte libre, donc un acte qui provient directement de mon jugement personnel, poser un acte libre. Je veux travailler à telle heure, l'exécution. Et l'obéissance intervient à ce moment-là pour que j'obéisse dans l'ordre de l'exécution. L'obéissance, c'est la vertu qui va jusqu'à l'exécution. C'est un étonnant de la vertu de l'obéissance. C'est pas seulement cela, hein, mais ça implique jusque-là, parce que la volonté est une volonté d'efficacité, une volonté d'exécution. Alors on comprend très bien que la liberté première, elle est là. Je peux m'asseoir, je peux me lever. Je suis libre, avant tout, de m'asseoir et de me lever. Quand vous êtes dans une prière liturgique, on s'assied et on se tient debout, donc c'est très bien selon un rythme, mais après tout, si je suis trop fatigué, je vais dire, asseyez-vous. Soyez suffisamment intelligent pour vous asseoir. Ne soyez pas stoïcienne trop longtemps. Et acceptez tout simplement d'être fatigué. Jésus a été fatigué à un moment donné, il était assis. Et c'était volontaire, il a accepté volontairement. Donc, c'est dans l'ordre de l'exécution que nous saisissons le mieux notre liberté. Là, nous la saisissons. C'est une façon palpable. Je peux me lever, je peux m'asseoir. Et le jour où vous êtes malade, vous me direz, je ne peux plus me lever. Vous voyez, vous dites, je ne peux plus me lever. Votre pouvoir libre s'exerce en premier lieu, vous le saisissez en premier lieu dans la volonté d'exercice. Et dans la volonté d'exercice, vous saisissez ce pouvoir que vous avez de poser un acte ou pas le poser. Et ça, c'est la première volonté. C'est la volonté, la volonté d'efficacité. Vous pourrez vraiment appeler ça la volonté, la liberté d'efficacité. Au niveau de poser un acte ou pas le poser. Juste avant l'exécution, vous avez le point de vue de l'élection. Ce qu'on disait hier. Vous avez la liberté de l'élection.
la liberté du choix. L'élection, pas dans le sens de l'élection, hein, dans le sens un peu profond du choix. Vous avez la liberté du choix. La liberté du choix de choisir tel ou tel moyen. Tel ou tel moyen en vue de l'exécution. Vous avez la liberté du choix. Là aussi intervient l'obéissance. Vous voyez comme c'est curieux. À tous les degrés, l'obéissance intérieure. Vous avez une liberté encore plus profonde, la liberté au niveau de vos intentions. Ah ça, alors c'est la liberté la plus profonde. Et même, je crois qu'on peut mettre une liberté encore plus profonde, la liberté dans l'ordre de l'amour. Je suis libre de me laisser entraîner par l'amour. Dans la mesure où j'ai conscience qu'une personne m'a dit. Qu'une personne est mon bien. Je suis libre de me laisser entraîner par le Père. Et de l'aimer. Je suis libre. Vous voyez, cette liberté tout intérieure, là joue la docilité au Saint-Esprit. Vous voyez, l'obéissance au Saint-Esprit, elle joue là. Elle joue dans cette liberté profonde, dans cette acceptation profonde de me laisser entraîner. La liberté, le respect à l'égard de l'Esprit Saint, la docilité au Saint-Esprit, va aller jusqu'à l'exécution, c'est évident. Mais il y a un lieu où seul l'Esprit Saint pénètre, c'est dans le cœur spirituel. Et alors là, c'est la docilité au Saint-Esprit. J'aime dans cette docilité à l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est le petit de l'aigle qui se laisse entraîner sous le penage de l'aigle. Et c'est vraiment cela, la docilité au Saint-Esprit. On se laisse entraîner par lui, on se laisse prendre par lui. Alors c'est une liberté toute d'amour, celle-là. L'intelligence intervient, c'est évident, puisque l'intelligence est présente à cet amour. L'intelligence me fait comprendre que ce bien, c'est vraiment mon bien. Et donc l'aimer et me laisser entraîner par ce bien, c'est bon pour moi. Et l'intelligence intervient pour ne pas mettre de barrière. Ne pas détourner. Vous avez donc la liberté du cœur, la liberté de l'intention, la liberté du choix, la liberté de l'exécution. Il y a donc quatre modalités de la liberté. Vous allez donc avoir quatre modalités d'obéissance. C'est quand même très curieux, ça, si vous essayez de comprendre. Hein. Vous avez quatre modalités d'obéissance qui correspondent à ces libertés, ça ne peut pas être autrement. Qui correspondent à ces libertés, alors au plan surnaturel ici, je me place, au point de vue purement philosophique, vous comprenez bien que la liberté au niveau de l'amour n'implique pas d'obéissance. Personne ne peut, au point de vue humain, me dire d'aimer telle personne pour aimer telle personne. On peut me donner des conseils, de très bons conseils, mais pas plus, hein. C'est pas plus que ça. Vous dire attention, attention, tu vas te laisser entraîner, c'est un petite allumette maintenant, bientôt ça deviendra un grand feu du bon. Et alors à ce moment-là, les pompiers ne pourront plus rien faire. Alors ça c'est très bien. On sait très bien qu'on peut donner des conseils, dire attention, mais pas plus. On n'obéit pas. Tandis qu'on obéit aux Saint-Esprit. La docilité à l'Esprit Saint, c'est la suprême obéissance. Hein. C'est la docilité à l'Esprit Saint. C'est une obéissance, on se laisse mouvoir par l'Esprit Saint. Se laisse entraîner par l'Esprit Saint. Alors là, il y a vraiment une liberté et une obéissance tout à fait intérieure. Quand il s'agit de l'intention vis-à-vis de la finalité, je crois que là encore, c'est l'Esprit Saint qui intervient. Et peuvent intervenir les instruments du Saint-Esprit vis-à-vis de la finalité. Peuvent intervenir les instruments du Saint-Esprit, qui sont des instruments, c'est-à-dire au fond, qui sont là uniquement pour aider à comprendre ce que veut l'Esprit Saint. Quand il s'agit du choix, quand il s'agit de l'exécution, là peuvent intervenir les causes secondes. C'est là où tout de suite l'obéissance prend un caractère très différent. Parce qu'il s'agit du choix des moyens et qu'il s'agit de l'exécution. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de ces deux aspects tout à fait intérieurs de la liberté, liberté à l'égard de l'amour, liberté à l'égard de l'attention, alors là, à ce moment-là, je crois profondément, n'intervient que l'Esprit Saint et que les instruments de l'Esprit Saint, vous voyez, quand je dis instruments de l'Esprit Saint, au fond, c'est le don de conseil. Ils ne peuvent pas donner plus en tant qu'instrument. Don de conseil. Ils peuvent vous dire, oui, je crois. Oui, c'est bien dans ce sens-là. Don de conseil, ce n'est pas un ordre. Parce que c'est l'Esprit Saint, au dernier lieu, auquel on obéit. Directeur et tracteur. Alors, c'est beau de voir directeur et tracteur. Le directeur du cœur et le recteur de l'intelligence. Alors on pourrait dire, un peu d'une certaine manière, directeur et recteur, c'est regarder ce premier amour et cette intention, c'est les deux aspects sous lesquels de fait l'Esprit Saint agit. Et puis alors, l'instrument de causalité seconde intervient au niveau des moyens. Alors là, il peut y avoir vraiment obéissance au sens fort à l'égard du choix des moyens. À l'égard du choix des moyens, il y a une obéissance à l'égard du choix des moyens. Non, vous ferez ceci, non pas cela. Et puis, il y a l'obéissance au niveau de l'exécution. Oui. L'obéissance regardera les deux, parce que de fait, la liberté existe à ces différents niveaux. Et chaque fois que la liberté existe, l'obéissance peut intervenir. Chaque fois. Pour modifier ma liberté. Parce que dans la liberté, j'ai la possibilité d'accepter ou de refuser, selon mon propre jugement. Et donc, il peut intervenir là un jugement plus profond, qui soit celui de l'Esprit Saint, ou qui soit celui de celui qui est mandaté par l'Esprit Saint, de celui qui est le serviteur de l'Esprit Saint. Alors à ce moment-là, intervient son jugement, et son jugement dans l'acte d'obéissance, exige de moi ce dépassement. Alors ma liberté va se trouver, voyez, prendre une modalité particulière dans un acte d'obéissance. J'obéis librement. J'obéis librement. Comment c'est plus l'obéissance, si vous obéissez pas librement. Je suis forcé de faire ça. Ça c'est le gendarme. C'est plus l'obéissance. Bon, c'est l'aspect juridique qui intervient et vous êtes forcé de faire ça. C'est plus l'obéissance véritable. Vous obéissez librement. Donc voyez comment la liberté joue là. Dernier aspect que je veux voir avec vous encore, parce que c'est important toujours dans cette volonté, la liberté qui apparaît. Essayons de comprendre là encore le lien entre l'intelligence et la volonté. C'est une chose très importante. J'ai dit tout à l'heure, le cœur spirituel, c'est ce qu'il y a de plus intime en nous. Alors, je voudrais vous rappeler ce passage dans saint Thomas, qui est très beau, où saint Thomas se pose la question, qu'est-ce qui est plus noble, l'intelligence ou la volonté? Mais, puisque nous voyons ici le concours des deux, nous voyons constamment que l'intelligence et la volonté sont attelées à la même œuvre pour réaliser cet amour, pour réaliser cette exécution. Alors, il est intéressant de comprendre un peu les relations mutuelles qui existent entre intelligence et volonté. Ce sont des relations mutuelles. Dans ces relations mutuelles, on peut d'abord se poser la question, laquelle est plus noble, l'intelligence ou la volonté? Alors, vous avez la réponse de saint Thomas, qui est une réponse très astucieuse de Normand, où saint Thomas ne répond pas directement, il répond avec intelligence, en graduant, l'intelligence a une noblesse unique à cause de son mode abstrait. C'est très curieux. Elle atteint l'universel. C'est la noblesse de l'intelligence qu'on saisit qui peut se mettre au-dessus. L'intelligence se met au-delà des contraires. Et elle est capable de se mettre au-delà des contraires. Elle est capable de saisir l'universel. Ça, c'est la noblesse de l'intelligence. L'intelligence a cette noblesse. Et saint Thomas ajoute tout de suite, quand il s'agit des réalités qui sont supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que de les connaître. Ça, c'est le contrepoids. Très, très important. Un rationaliste, à la manière de Descartes, dirait la raison au-dessus de tout. Saint Thomas ne dit pas la raison au-dessus de tout. Madame a dit, la raison a une noblesse unique. Il dit même l'intelligence. L'intelligence a une noblesse unique. Il ne dit pas qu'elle est au-dessus de tout. Pas du tout. Quand il s'agit des réalités qui sont supérieures à moi, c'est-à-dire l'homme, la personne humaine, et Dieu. Quand il s'agit d'entrer dans relation avec les personnes qui sont supérieures à moi, il vaut mieux les aimer que les connaître. C'est-à-dire, pour bien les connaître, il faut les aimer. Et donc l'intelligence doit accepter à ce moment-là d'être au service de l'amour. Alors comprenons bien ce service de l'intelligence par rapport à l'amour. Alors ça c'est aussi, bon, vous voyez bien là, les relations entre l'intelligence et l'amour. Maintenant essayons de comprendre la relation mutuelle entre l'intelligence et l'amour. Ne mettons pas une rivalité là où elle ne doit pas exister. Ne mettons pas une rivalité entre notre intelligence et notre cœur. Essayons du moins. Les conséquences du péché, nous dirons cet après-midi, les conséquences du péché mettront une rivalité entre l'intelligence et le cœur. C'est pour ça que Descartes ne représente pas la justice originelle. Non. Descartes représente au contraire une position conséquence du péché. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui est très net. C'est l'orgueil de l'intelligence qui veut passer avant. C'est la raison qui veut passer avant toujours. Et ça, nous sentons bien. Nous sentons très bien que nous voulons toujours avoir raison. Ça, c'est la conséquence du péché. C'est pas du tout naturel. Avoir toujours raison, c'est idiot, au fond. C'est idiot d'avoir toujours raison. Ça n'a pas de signification. Donc c'est la conséquence du péché originel. C'est la conséquence de l'orgueil de vouloir avoir toujours raison. La raison n'est pas première, quand même. Alors si la raison n'est pas première, ben, il peut y avoir quelqu'un qui passe devant moi. Et si j'aime cette personne, elle qui passe devant moi, je suis très heureux. La plus grande joie du maître, c'est de voir le disciple qui passe devant lui. Parce qu'il aime son disciple. Et qu'il aime la vérité. Au-dessus de lui. Alors il aime que l'autre passe devant. Vous voyez, c'est très très beau ça. Et c'est là le signe justement de ce que représente le dépassement de la volonté par rapport à l'intelligence. Donc comprenons bien la relation mutuelle. Cette relation mutuelle, c'est ceci. L'intelligence apporte ce qu'elle peut apporter dans ma vie humaine, dans ma vie concrète. L'intelligence est au service de l'homme. L'intelligence est pour l'homme, et la volonté est pour l'homme. Faut pas l'oublier. L'homme est intelligent, mais c'est l'homme qui est intelligent. L'homme est fait pour contempler. Et donc, l'intelligence apporte ce qu'elle peut apporter. Qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la signification profonde des choses. L'intelligence apporte la spécification, la détermination, qui va dans le sens de la signification. Le gros problème de la signification, c'est l'intelligence qui apporte la signification des choses. L'intelligence apporte le jugement d'existence, montrer où est le réel. Ça, c'est l'intelligence qui apporte ça. L'intelligence va apporter le jugement à l'intérieur même de la contemplation. Comprendre que ce bien que j'aime, c'est vraiment ce qui est d'ultime pour moi. Et donc, là, va apporter quelque chose de particulier. C'est pas seulement la signification qu'apporte l'intelligence. L'intelligence apporte le sens de l'autre. Et l'autre est au-delà de la signification. Donc la signification est le sens de l'autre. Je crois qu'on pourrait dire ça. Voilà ce qu'apporte l'intelligence. Qu'apporte la volonté? La volonté apporte le primat dans l'ordre de l'exercice. Très curieux. Ce que je vous disais hier en commençant. La volonté apporte cette attention. Ce poids d'attention, c'est ça qu'apporte la volonté, dans ce qu'elle a de fondamental. Elle applique mon intelligence à être attentif. Et je suis attentif par ma volonté, je ne suis pas attentif par mon intelligence. C'est en ce sens-là que le côté affectif peut arrêter un développement intellectuel. Si je ne suis pas assez attentif, ça arrête. Alors, la volonté apporte l'exercice, l'application. C'est la volonté, c'est la faculté de l'exercice, de l'application. Mais plus profondément encore, la volonté apporte la capacité d'aimer. Donc le dépassement à l'égard du sens pour être uni à l'autre. Dans cette union profonde, affective, qui va permettre l'union réelle. Qui va permettre l'union dans le regard, dans l'intelligence. Alors on pourrait comprendre, vous voyez, ces rapports constants entre les deux. L'intelligence vient préciser la signification et par là fortifie et enlève tout le domaine imaginaire. Parce que la volonté très facilement se laisse alourdir par l'imaginaire, le poids affectif. Alors l'intelligence est là pour rectifier tout le temps, tout le temps. Et elle opère cette espèce de lucidité. Alors elle rectifie. Elle rectifie, elle précise. C'est dans l'ordre de la signification. Et elle montre en même temps que l'autre qui me finalise ne peut être vraiment atteint que dans l'amour. Et donc elle laisse passer l'amour. Elle purifie, elle rectifie l'amour pour laisser l'amour passer devant. Et la volonté est là toujours pour maintenir en moi cette attention. Elle est la première dans l'ordre de l'exercice. Et elle est là pour aussi être ultime. Tout s'achève dans l'amour. Tout s'achève dans cette union affective, dans cette union d'amour. Alors il faut comprendre que le péché, alors au plan surnaturel, déjà au niveau philosophique, la faute, si vous voulez, la faute, dans le sens, l'erreur, la faute, c'est de ne pas accepter que la fin soit au-delà de moi. Je crois que c'est tout le temps cela. Toute faute provient de là. Et de vouloir découvrir une finalité purement immanente. La faute au sens fort, ce sera cela. Le péché au sens fort, ce sera cela. Ne pas accepter d'être relatif à un autre. Alors, c'est les mœurs de l'intelligence qui viennent contaminer le cœur. C'est ça l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la faute première. Tout a commencé par une faute d'orgueil. Et tout s'est répercuté par cette faute d'orgueil. C'est pas du côté des fautes selon de la chair qu'on va découvrir ce que c'est que la faute, c'est du côté de l'esprit. C'est l'esprit qui est capable d'errance, qui est capable de s'opposer à l'amour. Et alors la faute viendra briser cette harmonie profonde entre le cœur et l'intelligence. C'est ça le propre de la faute. Et la faute d'orgueil. De briser cette harmonie fondamentale que Dieu a voulu. Par où nous sommes créés à l'image de Dieu. De briser cette harmonie, et par le fait même, ou d'exalter la volonté dans le volontarisme, alors volonté d'efficacité, ça va pas l'exalter. Alors c'est la puissance, c'est le dominion. Ou d'exalter la raison. En supprimant l'amour. C'est les deux grandes exaltations, la bête de la terre et la bête de la matière.